C'est toi qui le dis. » Leur répond Jésus de manière énigmatique, scellant ainsi sa condamnation. Quand il parle de lui, Jésus évoque les noms interprétables à l'infini de Fils de Dieu et de Fils de l'homme, et s'arroge un statut particulier, celui d'envoyé d'un Dieu qu'il appelle son Père, et auprès duquel il revendique une intimité particulière. Pour autant, il ne se fait jamais l'égal de Dieu. Il vient de Dieu, sa naissance est présentée comme miraculeuse, il ressuscite d'entre les morts, mais les premiers témoignages écrits dans les décennies qui suivent sa mort n'évoquent jamais explicitement sa divinité. Il faudra attendre le début du IIe siècle et la rédaction de l'Évangile de Jean pour que Jésus soit présenté comme l'incarnation de Dieu. Il n'est plus alors seulement le Fils bien-aimé du Père, l'envoyé de Dieu, le Messie, mais Dieu lui-même ayant assumé la nature humaine. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, écrit l'auteur du 4e évangile dans son prologue. Ainsi est née la théorie de l'homme-Dieu. Une telle affirmation, qui heurte aussi violemment la foi juive que la raison humaine, va susciter maint débat au sein du christianisme naissant. Comment Dieu peut-il s'incarner sans perdre son statut totalement transcendant? Dieu peut-il souffrir et mourir? Comment concilier humanité et divinité en la personne de Jésus? Si Jésus est Dieu, pourquoi parle-t-il de son Père qui l'a envoyé? Existe-t-il plusieurs personnes divines? Si oui, comment peut-on encore parler de l'unicité de Dieu, fondement du monothéisme? À la suite du juif Philon d'Alexandrie, les penseurs chrétiens utilisent les catégories conceptuelles de la philosophie grecque pour tenter de résoudre ces paradoxes et de mieux comprendre et formuler l'identité de Jésus. Toute une grammaire théologique s'édifie ainsi au cours des 2e et 3e siècles. Les définitions foisonnent. Chaque grande école de pensée chrétienne, Alexandrie, Antioche, Constantinople, Rome, tentant de formuler la mystérieuse identité de Jésus. Les esprits s'échauffent et les querelles s'enveniment, avec leur lot d'exclusions et d'anathèmes. Tant que les chrétiens demeurent une minorité persécutée par le pouvoir romain attaché au polythéisme, ces querelles n'ont d'autre enjeu que l'expression de leur foi. Jusqu'au moment où un événement inattendu bouleverse la donne, au début du IVe siècle. L'empereur Constantin décide non seulement de faire cesser les persécutions contre les chrétiens, mais bien plus encore, d'unifier l'Empire sous l'égide de cette religion qu'il juge vertueuse et apte à lutter contre la décadence de la société romaine. Il a cependant tôt fait de réaliser que les divisions des chrétiens sur la nature de Jésus minent son projet. Il est impératif que les disciples du Christ s'accordent entre eux sur cette question cruciale. C'est donc pour des raisons éminemment politiques qu'il convoque à Nicée, en 325, un concile réunissant toutes les autorités religieuses chrétiennes disséminées sur son vaste empire et même en dehors de celui-ci. Il les conjure de se mettre d'accord sur le point essentiel qui les divise depuis 2 siècles. Qui est Jésus? Un homme choisi par Dieu, voire élevé au rang divin par le Père, ou Dieu lui-même fait homme? Il faudra encore plus d'un siècle de disputes et de polémiques terribles, 3 nouveaux conciles, et toujours la même implacable volonté des successeurs de Constantin de contraindre les théologiens chrétiens à s'accorder pour qu'un consensus finisse par s'établir parmi une très large majorité, instaurant le dogme chrétien fondamental entre tous, la théologie trinitaire. Dieu est à la fois 1 et 3, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils, ou Logos, possède une double nature, divine et humaine, Jésus étant l'incarnation humaine du Logos divin. Jésus est donc considéré comme vrai Dieu et vrai homme, engendré et non pas créé, de même substance, ousia, que le Père. Cette formulation